C'est bon, Angel, j'arrive direction Paris pour te rejoindre pour l'interview. À tout de suite.
Ciao.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mon Trajet Vert, le podcast. Mon Trajet Vert, le podcast, est une série de 6 émissions consacrées à la mobilité quotidienne des étudiants. Comment se déplacent-ils? Quels sont leurs moyens de transport pour leur trajet domicile-campus, domicile-travail? Et parmi eux, il y a sûrement le vélo, thème de notre premier épisode. Le vélo d'ailleurs, qui est de plus en plus populaire dans le pays. 40% des Français le pratiquent au moins une fois par mois. Et il a, a priori, tout pour plaire aux étudiants. Liberté, facilité, autonomie, nombreux sont ceux d'ailleurs dans les grandes villes à s'emparer de lui. Mais l'usage du vélo est illégal selon les territoires. Et puis, comment expliquer que selon plusieurs enquêtes, les étudiants plébiscitent le vélo sans pour autant toujours l'adopter dans leur trajet quotidien? Quels sont les freins au déploiement de la bicyclette, comme on dit? Comment les universités et grandes écoles peuvent-elles accompagner la pratique du vélo quotidien? Mon Trajet Vert, c'est avant tout un podcast de solutions concrètes. Nous allons donc donner la parole à des étudiants et des experts pour mieux comprendre ce qu'implique l'usage du vélo pour les étudiants et surtout comment le déployer à plus grande échelle parmi les jeunes générations. J'ai moi-même pris mon vélo, mais pas que, pour rencontrer Mathieu, 25 ans. Il est étudiant au CESI d'Arras depuis 5 ans, est actuellement en Master Management de Direction Opérationnelle et Innovation. Pourquoi Mathieu? Parce qu'il n'est plus question pour lui de quitter son vélo.
Je me suis mis au vélo depuis 4-5 années. Donc, j'ai commencé à venir en vélo au début de l'été. Parce que justement j'en avais un peu marre de prendre la voiture pour venir en cours, que ce soit les bouchons, qu'il y ait beaucoup de voitures devant le CESI avec le CFA ou les impôts qui sont juste à côté. Je me suis dit je vais essayer de venir en vélo et puis j'ai vu que ça me prenait autant de temps qu'en voiture. Ça permet aussi de prendre le soleil, le beau temps et au final c'était quand même quelque chose de plaisant. Du coup j'ai pratiqué de plus en plus et là, j'essaye de venir le maximum possible en vélo.
Tu mets combien de temps à venir?
Entre 15 et 25 minutes selon mon envie et selon si je suis pressé ou non à venir ou à rentrer à la maison. Du coup, la première fois que j'ai pris le vélo pour venir, j'étais pas trop à l'aise parce que justement, j'ai beaucoup sué. Et c'est quelque chose que j'avais anticipé parce que je me connais quand même. J'avais pris un t-shirt de change justement et je m'étais changé dans les toilettes pour pouvoir anticiper et pas être plein de sueur en rentrant, que ce soit pour moi et puis même pour mes collègues de promo. C'est quelque chose qui n'est pas forcément cool pour eux. Et puis c'est aussi pour ça que j'ai pris un vélo électrique pour être un peu moins fatigué en venant de cours. Et puis même quand il pleut, ça permet d'être moins trempé parce que on fait moins de mouvements, ça va plus vite et puis... Ça permet aussi de plus profiter malgré tout, même si ça fait un peu moins sport, on va dire. C'est assez simple pour moi d'aller en cours à vélo parce que Arras, c'est quand même une ville qui a des pistes cyclables assez bien formées où il y a eu des travaux récemment justement pour faire de belles pistes cyclables, même si je ne les prends pas forcément parce que ça me fait plus un détour. Et au CESI, en tout cas, depuis les travaux aussi qu'il y a eu avec le nouveau bâtiment, ils ont installé des racks à l'intérieur de l'établissement, enfin de la clôture de l'établissement, où on peut mettre nos vélos, les trottinettes électriques pour certains. Et du coup, ouais, ça permet là, avec les travaux du CESI, de se sentir en sécurité. Je peux laisser mon vélo là sans problème. Même, je pense que s'il n'est pas attaché, Enfin, j'aurais pas trop de crainte en tout cas à le déposer avec les nouveaux travaux que le CESI a pu faire sur l'établissement. Ouais.
Tu disais que ça pouvait avoir un intérêt financier, tu le vois de quelle manière cet intérêt-là?
Je le vois sur mes allers-retours parce que typiquement j'ai le vélo électrique depuis octobre l'année dernière et si je compte sans les pleins pour les vacances ou ce genre de choses, j'ai pas fait 3 pleins depuis plus d'un an quoi. Enfin, c'est beaucoup le côté financier, même s'il y a un peu d'environnement où on se dit, c'est vrai que quand je passe de un plein par semaine à un plein tous les 3-4 mois, c'est financier, mais tu te dis que même, j'ai déjà fait mon bilan carbone pour voir un peu ce que je consomme en carbone, et le fait de ne pas utiliser la voiture, en fait, ça réduit vraiment fortement le bilan carbone, même si quand je me dis je vais prendre le vélo, je me dis pas tiens je vais prendre le vélo pour justement réduire mon empreinte carbone. Je pense que c'est un tout, c'est un peu un cycle où forcément c'est économique, mais du coup le économique lie avec l'environnement et le bien-être, et en fait à chaque fois c'est la même chose. Et puis des fois bah, la voiture, t'es dans les bouchons et puis tu vois un vélo te doubler. Et du coup, tu te dis, ouais, le vélo, pourquoi pas. Et j'ai déjà fait l'expérience, où je suis parti en même temps qu'un de mes, collègues de promo, où justement, qui habite pas très très loin de chez moi. Et je me suis retrouvé à le doubler sur la route parce qu'il était dans les bouchons. Puis j'ai vu sa voiture, je fais un petit coucou de un peu pour le narguer, pour lui dire je t'ai doublé, je suis en vélo, toi non. Et puis du coup, voilà. Bon, depuis il a vendu sa voiture, il vit en bus, mais.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, y'avait Fernand, y'avait Firna, y'avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette.
Est-ce que tu prends le vélo dans le train ?
Du coup non, parce que mon vélo est un peu trop gros. J'ai un vélo électrique qui se plie. Sauf que le train, c'est assez compliqué de le prendre, en tout cas pour remonter sur Arras, parce que c'est des TGV qui n'acceptent pas forcément le vélo. Faut qu'il soit plié sous bâche. Le vélo fait 40 kg quand même, donc c'est pas forcément évident. Après, je sais que sur Rochefort, je suis déjà allé plusieurs fois sur La Rochelle en train, où j'ai pu mettre le vélo sans problème. Les contrôleurs, bon, ils font une tête un peu estomaqué, ils se disent c'est quoi de ça, et puis quand je leur montre que ça se plie, au final, bon, ils disaient rien, et puis ça passe quand même assez bien.
Est-ce que tu penses qu'il y aurait des choses à améliorer? Là on parlait du train, est-ce que tu penses que à Arras ou ailleurs, il y aurait des choses qu'on pourrait faire pour que ta pratique du vélo se passe mieux?
Ce serait compliqué de trouver des choses à améliorer, c'est quelque chose qui, je pense, coûterait quand même relativement cher. Après, c'est vrai que, par exemple, la ville d'Arras ou même à La Rochelle, il permet d'avoir des vélos en location. Ou, par exemple, Arras, je l'avais déjà loué donc il y a quelques années. C'était une centaine d'euros pour avoir un vélo électrique pendant une année. Bon, malheureusement, on peut l'avoir que une année parce qu'après, c'est les autres personnes qui peuvent en profiter. Donc, c'est vrai que s'il y a quelque chose, ce serait, je pense, quelque chose qui pourrait être pas mal.
Est-ce que aujourd'hui, tu as réussi à convaincre des membres de ton entourage ou des collègues à toi du CESI à se mettre justement au vélo?
Pas trop, non. Je sais qu'au CESI, j'ai beaucoup de gars de la promo, enfin de personnes de la promo qui habitent plutôt vers Lille, Valenciennes ou même Béthune. Donc pour eux, venir en vélo, c'est quand même assez compliqué. Et pareil, venir en vélo, le mettre dans le train, c'est parfois plus cher que juste venir en voiture, en sachant qu'il y en a beaucoup qui font du covoiturage aussi. Après, j'essaye de mettre ma copine un peu sur le vélo parce qu'elle, c'est vrai que c'est une fanade voiture. Elle voit la voiture un peu comme la facilité. Je prends la voiture pour aller faire les courses. Je vais à droite, à gauche, je prends la voiture. Des fois, je l'embarque avec moi en vélo. Et puis, c'est vrai que c'est plaisant même de faire du vélo à deux. C'est mieux que faire du vélo tout seul. Et du coup, là, justement, je suis en train de regarder avec elle pour pouvoir louer un vélo sur Rochefort, parce qu'il y a aussi cette possibilité-là qui est apparue il n'y a pas très longtemps sur là où je travaille. Et c'est une trentaine d'euros par mois, justement, pour un vélo électrique. Et je pense que ça ne va pas tarder sur une location. Et puis, en plus, il est plus petit, donc peut-être que je pourrais même le ramener ici. Donc, si ça peut être pas mal aussi d'étudier cette possibilité-là.
Et pourquoi pas faire du vélo en tandem? Dans cette seconde partie de Mon trajet vers le podcast, nous allons parler de solutions concrètes, d'innovation, d'expérimentation pour mieux aider les étudiants qui nous écoutent à se déplacer davantage à vélo. Pour m'y aider, j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone depuis Grasse, Élodie Trochet-Sec. Vous êtes coordinatrice de l'équipe mobilité à l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. À mes côtés en studio, Thibaut Quéré, le porte-parole de la FUB, c'est l'association qui représente les cyclistes, et Arnaud Le Rodalec, cofondateur de FIFT, le réseau d'installation de vélos électriques en location de courte durée en libre service. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Je vais commencer par une question assez générale. Quelle est l'image du vélo aujourd'hui? Est-ce que ça peut paraître un peu ringard ou au contraire c'est totalement hype le vélo?
Je pense que Mathieu devrait rejoindre une asso vélo parce qu'il en parle très très bien. Il parle bien du fait que le vélo est redevenu un objet plaisant en France. Il parle bien du fait que le vélo c'est pas cher et donc ça plaît à beaucoup de monde. Il a aussi pas mal parlé du fait que grâce au vélo, bah, on peut reconnecter avec ses amis, en l'occurrence aussi avec sa copine sur des trajets. Bref, le vélo a le vent en poupe pour toute cette raison-là qu'on avait un peu oublié ou que, en tout cas, on avait fait un peu le choix collectivement d'oublier. Aujourd'hui, il y a un regain de pratique, il y a un regain d'attrait, il y a un regain d'appétit pour faire du vélo. Chacun a ses raisons, mais elles ont toutes du sens et elles convergent bien. Donc, autant en profiter pour s'y mettre et d'autant plus quand on est encore à l'âge où on peut choisir son mode de transport. Et quand on est étudiant, je pense que c'est le bon moment.
Comment cette image, elle a évolué dans le temps? Justement, vous aviez l'air de dire que c'était moins cette image-là qu'on pouvait avoir avant.
Bah, il y a des modes et puis il y a aussi des systèmes. Enfin, on reviendra un petit peu là-dessus, mais quand Mathieu disait on ne peut pas faire grand-chose, bah si, on peut faire beaucoup de choses en fait collectivement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on milite à la FUB et dans les associations pour développer le vélo. Il y a une époque où on a fait le choix aussi de ringardiser le vélo et au contraire de dire que la voiture, bah, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et puis en fait, on se rend compte qu'il y a des bouchons, qu'il y a de la pollution, que ça coûte cher, que c'est dangereux, plus de 3000 morts par an et que du coup, il y a peut-être d'autres choses à faire que de se déplacer en voiture. Donc, on travaille jour après jour depuis 20, 30, 40 ans à faire que le vélo revienne un peu à la une et soit à nouveau un mode de transport plaisant. Et je pense qu'on est en train de gagner ce combat-là, donc c'est cool.
Qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui un étudiant de prendre le vélo? Je pense à 15, par exemple, qui permet de prendre des vélos en libre-service. C'est une solution parmi d'autres, mais qu'est-ce qui peut empêcher des étudiants aujourd'hui de prendre le vélo?
Je pense que l'étudiant qu'on a pu entendre en a cité un certain nombre, hein, que ce soit sur le parking, que ce soit sur... il a parlé de l'effort et du fait qu'il avait parfois besoin, quand il prenait un vélo mécanique, de pouvoir se changer ou se doucher après avoir pratiqué. Là-dessus, le vélo assistance électrique, d'ailleurs, est un des drivers du retour en force du vélo. Et puis les infrastructures pour se déplacer, la multimodalité, il en a parlé aussi, c'est un vrai sujet, surtout dès qu'on sort des centres-villes denses et que le sujet de la multimodalité vélo-train est souvent au cœur des déplacements. Il y a des freins qui sont aussi un peu différents entre le vélo dit personnel, où on possède son modèle de vélo, et le vélo partagé, que nous, on connaît bien chez 15. C'est certains freins qu'on cherche à lever sur le vélo partagé qui peuvent être la peur du vol, qui peuvent être la maintenance, le fait qu'on n'est pas toujours expert sur le vélo, en particulier quand on va vers du vélo électrique, du vélo assistance électrique, sur lequel y a un certain nombre de complexités en plus. Tous ces sujets-là sont autant de freins que par des actions telles que celles qui sont menées par la FUB ou par des systèmes de vélo partage comme propose 15, on peut essayer de lever petit à petit pour mettre les gens en selle. Et en fait, généralement, une fois que on est monté sur la selle et qu'on a pratiqué, comme on a pu l'entendre, bah, c'est parti.
Il y a aussi d'autres solutions qui peuvent être mises en place. Une étude de 2022 sur la cible étudiante met en avant les solutions les plus plébiscitées. On parle de plus de pistes cyclables, des stationnements sécurisés, une aide à l'achat d'un vélo personnel. Alors, si on regarde la première raison mise en avant, c'est les pistes cyclables. C'est du ressort des collectivités territoriales et du gouvernement. D'ailleurs, un plan vélo 2023-2027 est justement dans les cartons et prévoit 250 millions d'euros par an pour les aménagements cyclables. Thibaut Quéré de la FUB, il en est où ce plan vélo?
C'était intéressant quand j'entendais Mathieu tout à l'heure dire Arras, c'est très bien, on a bien avancé, etc. Je l'invite à aller à Grenoble ou à Strasbourg et il verra vraiment ce que c'est des villes qui ont beaucoup de pistes cyclables. Parce qu'en effet, quand on a goûté au plaisir d'avoir vraiment des pistes cyclables, il n'y a plus personne qui se dit non, c'est dangereux d'y aller à l'école, à la fac ou que sais-je. C'est vraiment un truc. Donc nous, on milite, comme je dis, depuis très longtemps avec nos assos locales dans lesquelles les étudiants sont plus que bienvenus à venir et à militer avec nous. Parce que les pistes cyclables, c'est la mère des batailles. En fait, c'est comment on partage l'espace public et comment on fait en sorte qu'il ne soit pas monopolisé par des voitures et par, du coup, toute la dangerosité qui va avec. Donc, les pistes cyclables, c'est la priorité. Maintenant, toutes les collectivités locales, elles ne s'y mettent pas. Si on est étudiant à Roubaix ou si on est étudiant à Grenoble, c'est pas la même sauce, très clairement. Et donc, du coup, la voiture devient plus concurrentielle quand c'est hyper dangereux d'aller à l'école, à la fac, à vélo. Donc, nous, on milite beaucoup, on demande de l'argent et on demande des vraies pistes cyclables qui sont sécurisées, c'est-à-dire où on peut circuler seul, avec sa copine, ses potes, sans se sentir en danger.
Élodie Trochessec, je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'équipe mobilité à l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Vous en pensez quoi de ce témoignage de Mathieu et de ce qui vient d'être dit ?
Je pense qu'il est extrêmement éclairant. Et d'ailleurs, il y a un frein dont on n'a pas encore parlé. C'est tout ce qui relève de la culture, de l'habitude. On vit dans un pays où on a derrière nous 40 ans, 50 ans de culture auto très, très ancrée. D'ailleurs, sur les 40 dernières années, on s'est déplacé de moins en moins à vélo. Il faut quand même avoir en tête que dans les années 50, on a à peu près 40 à 50% de part modale vélo. Hein. Donc, c'est pas quelque chose qui est impossible, y compris en France. Donc, on a perdu ça. On a une culture très installée autour de la voiture, beaucoup d'habitudes installées autour de la voiture. On déplace de plus en plus, d'ailleurs, les enfants et les jeunes élèves et étudiants en voiture. Et donc, tout ça, il faut le challenger. C'est aussi le rôle des services de permettre d'essayer des vélos grâce au vélo-école, grâce au vélo en libre-service, avec un niveau de contrainte vraiment minimal parce qu'on n'a pas le sujet du stationnement, on n'a pas le sujet de l'entretien. Et donc, ces freins, ils sont vraiment fondamentaux à lever pour que demain, on ait de nouveau de plus en plus d'étudiants qui font du vélo. Et puis, le vélo, c'est aussi un outil qu'on veut rendre accessible à tous. Aujourd'hui, on sait que la pratique, elle est quand même très, très genrée, très masculine, plutôt côté CSP+, plutôt côté citadin. Et donc, on a tout un enjeu à rendre le vélo accessible au plus grand nombre. Les périurbains et les ruraux, notamment, les femmes, les enfants, les PMR. Et tout ça, ça concerne aussi notre cible des étudiants. Demain, on veut des étudiants et des étudiantes à vélo, quel que soit leur niveau de forme, quel que soit leur lieu de vie, pour se rendre à leur lieu d'études à vélo.
Vous parliez effectivement des pistes cyclables, on peut aussi évoquer l'aspect stationnement. Qu'est-ce que peuvent faire les universités, les campus? Est-ce que la loi, elle oblige, disons, les établissements à installer des stationnements de vélos? Ou c'est un petit peu, chacun décide de ce qu'il a envie de faire, Thibaut Arnaud, je ne sais pas ce que vous savez de ça.
Je peux peut-être commenter sur la partie vélo public, vélo partagé. Nous, ce qu'on voit, c'est que, alors c'est pas des contraintes, mais dans les schémas qui sont mis en place par les villes sur les services, dont parlait Elodie avant, il y a toujours une volonté de desservir les zones de campus. Par exemple, on fournit aujourd'hui le système de vélo partagé de la ville de Marseille. Il y a eu le choix d'aller jusqu'au campus de Lumigny, qui est assez éloigné du centre-ville, et d'installer des stations au niveau du campus pour desservir spécifiquement ces campus. Et ça, généralement, ça s'accompagne, au-delà du stationnement, d'offres tarifaires spécifiques, alors qui sont généralement pas étudiants, mais plutôt moins de 26 ans. Donc, par exemple, sur la ville de Marseille, on a des abonnements à 6 euros par mois pour tout le monde et à 3 euros par mois pour les moins de 26 ans. Donc en fait, avec à la fois cette accessibilité des services sur les zones de campus et sur les zones d'habitation et des offres tarifaires attractives, en fait, c'est un des leviers qu'on a pour aider les étudiants à monter en selle.
Parce que c'est vrai que c'est un peu ce qui ressort aussi de ce témoignage de Mathieu, c'est les finances aussi, c'est le budget. Ça coûte combien en fait aujourd'hui d'acheter un vélo et quelles aides existent ?
Il y a plein de sujets qui ont été évoqués. Moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose par rapport à la bagnole et le fait qu'on continue. Enfin, il y a encore beaucoup d'étudiants, évidemment, qui utilisent la voiture. Nous, dans l'étude qu'on avait menée en 2022, je crois, sur un peu plus de 2000 étudiants, ce qu'on voyait qui était assez marquant, c'est la différence entre les étudiants qui habitent chez leurs parents et ceux qui n'habitent pas chez leurs parents. Quand on n'habite pas chez ses parents, alors si tout va bien, on peut avoir un hébergement de type Crous, sinon une coloc ou un habitat un peu plus proche de la fac. On voit qu'il y a un fort différentiel, vraiment, c'est hyper important entre ceux qui habitent chez leurs parents, qui utilisent beaucoup, beaucoup la voiture, plus de distance, et puis du coup, de fait, l'accès potentiellement à une voiture du foyer pour aller à l'école, enfin pour aller à la fac, pardon.
Ça peut être culturel aussi, par rapport à c'est ce que disait Elodie.
Alors la culture, peut-être que ça rappellera à certains leur cours de lycée, mais comme Sartre disait, l'existence précède l'essence, c'est-à-dire qu'on ne naît pas automobiliste, ou alors c'est un genre humain très particulier, en tout cas pas de celui qu'on souhaite développer nous, mais on le devient, et on devient addict à la voiture, on devient dépendant à la voiture. Pourquoi ? Parce que autour de vous, vos maires, vos députés, vos présidents de la République, etc., ont fait le choix de vous assigner à la voiture. Donc le fait de pouvoir réussir à se dégager de cette contrainte et faire en sorte de se déplacer autrement, ça demande à la fois une forme de révolution personnelle. On a bien entendu Mathieu, il y a eu beaucoup de choses qui l'ont traversé, Mathieu. Il y a eu le fait de circuler à l'air libre, il y a eu le rapport avec sa copine, ses copains, ses familles, enfin bref, c'est un choix quand même qui a un long cheminement. Et puis après, il y a les choix collectifs. Et quand on n'a pas de piste cyclable, pas de garage à vélo à la fac, qu'on manque de se faire tirer son vélo tout le temps, c'est clair que c'est un peu moins simple de passer le cap. Donc il y a vraiment cet enjeu d'accès à cette autonomie, de s'émanciper de la voiture, ce qui n'est pas simple, et pour ce faire aussi de militer le plus possible pour revendiquer des pistes cyclables, des garages à vélo. on peut militer dans sa fac. Les syndicats étudiants, c'est aussi leur rôle que de comprendre quels sont les besoins. Et quand on sait que presque un étudiant sur cinq a des problèmes pour se nourrir à la fac, et qu'il y a un gros problème de croissance de la précarité étudiante, bah, le fait de passer de la voiture au vélo, c'est quand même un moyen aussi de moins sauter de repas. Donc les syndicats étudiants, et puis après, on peut même s'organiser en tant qu'étudiant au sein de sa fac. Et on voit ça, par exemple, sur des facs comme à Nantes ou à Bordeaux, où il y a vraiment des assos qui se sont constitués avec des étudiants qui sont là pour animer le petit stand de réparation de vélo pour que vous n'ayez pas à passer chez un réparateur qui peut coûter un peu cher, pour travailler sur le garage à vélo, comment on l'organise, est-ce qu'il y a suffisamment de place, pas suffisamment de place, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme service en plus, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme piste cyclable en plus. Bref, il y a pas mal d'initiatives comme ça qui existent, et donc en tant qu'étudiant, vous avez aussi la capacité de vous organiser, ou en tout cas d'essayer de reprendre un peu ces choses-là en main.
Comment on peut aller les chercher, ces étudiants qui peut-être, comme l'était Mathieu avant, de se dire « Ah, est-ce que je vais sauter le pas ou pas ?» Ce dont vous parliez aussi, des étudiants plutôt automobilistes, est-ce que ça peut être à travers des aides, des locations de vélos? Est-ce que ça passe exclusivement par l'aspect financier ou pas que?
Ça passe par évidemment beaucoup de choses. L'aspect financier, il est quand même assez important, parce que quand on est seul, qu'on habite déjà, qu'il faut se payer son loyer, payer sa nourriture chaque mois, et qu'en plus de ça, il faut se payer un vélo qui en plus doit pas être un vélo de mauvaise qualité, parce que si on roule sur un vélo d'enfant et qu'on fait 1m80, on va vite avoir mal aux genoux. Donc c'est hyper important d'avoir un bon vélo. Et on voit Mathieu, on a beaucoup parlé aussi du fait qu'il a pris un premier vélo, il a testé avec un service pendant un an. Après, il a acheté son vélo à assistance électrique parce qu'il voulait pas faire trop d'efforts pour aller en cours. Donc tout ça, c'est quand même des dépenses qui se succèdent, et donc quand on n'avait pas les parents qui sont là derrière pour soutenir, il faut pouvoir être aidé. Donc par exemple, quand on regarde à Lyon, donc il y a peut-être des étudiants lyonnais, la métropole de Lyon a mis en place tout un système de flotte de vélos vraiment pas cher qui sont reconditionnés, donc c'est très bien en termes aussi de gestion de vélos qui auraient pu être jetés à la casse sinon, pour que les étudiants aient accès à un moyen de transport pas cher, et pour qu'à la rentrée ils puissent au moins tester, et puis si c'est pas approuvé, ils feront autrement. Et heureusement, il y a aussi les transports en collectif qui sont là pour combler. Mais donc, l'aspect financier, il est premier. Et puis après, il y a le fait qu'il faut aimer faire du vélo. On ne va pas forcer les gens à faire quelque chose qu'ils détestent. Et donc, pour aimer, il faut pratiquer. Pratiquer pendant ses vacances, peut-être commencer à faire quelques voyages à vélo. C'est aussi très sympa à faire entre amis, ça ne coûte pas cher.
Bien s'équiper.
Et ça demande aussi peut-être le week-end d'aller faire quelques balades quand on a du temps. C'est un moyen pas cher de se faire plaisir. Donc, autant tester et peut-être pas tester... tout au début sur le trajet le plus compliqué, d'aller en cours en plein hiver à 8h du matin, mais peut-être aussi d'essayer d'autres manières.
Il y a l'aspect financier dont on parle évidemment, mais il y a aussi l'aspect écologique. C'est faire du vélo, c'est se faire plaisir, mais c'est aussi faire du bien à la planète. Élodie Trochet-Sec, est-ce que c'est un moteur justement pour cette nouvelle génération?
Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est un moteur. Mathieu avait l'air de dire que ce n'est pas à ça qu'il pense quand il prend son vélo. C'est une génération qui est très consciente des enjeux écologiques, qu'il a beaucoup intégré, qui est d'ailleurs assez exigeante et assez en attente au collectif, sur tout ce qui peut être fait sur ces sujets climatiques et environnementaux. Je ne suis pas sûre que ce soit un moteur, mais en tout cas, c'est certainement un levier pour continuer. Ça fait partie des points positifs à pratiquer le vélo. Cela étant dit, je ne suis pas sûre que ce soit auprès des étudiants ou des autres qu'on arrivera à vendre le fait de se mettre à vélo juste en parlant d'environnement. La bonne nouvelle, c'est que le vélo a plein d'avantages. C'est certes un mode de transport très, très vertueux pour le climat, pour la qualité de l'air, pour le bruit, pour l'accidentalité, pour des tas de choses. Mais c'est surtout un très, très bon levier en matière de santé. Et on sait qu'on a un sujet de sédentarité, de manque de pratiques sportives, y compris auprès des étudiants. Donc, c'est aussi une façon de prendre soin de soi. On l'a vu, c'est un levier de pouvoir d'achat. Et puis, il y a quelque chose qui a été dit par Mathieu et qui est très important et qu'on oublie, c'est que le vélo, c'est surtout un plaisir. Se déplacer à vélo, on reconnecte avec son environnement, on reconnecte avec la ville, on reconnecte avec les gens. C'est une expérience physique qui n'a absolument rien à voir avec le fait de se déplacer en voiture. On sort de sa bulle, on redevient acteur de son déplacement, et c'est un vrai plaisir qui en plus se partage. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort autour de cette idée, tout particulièrement chez les jeunes et les étudiants qui sont dans une période de leur vie où ils ont besoin d'un maximum de partage et d'interaction sociale. Le vélo, c'est un levier de partage et d'interaction sociale, et c'est peut-être le meilleur message qu'on puisse faire passer, l'une des meilleures raisons de s'y mettre, est de continuer.
Et il y a la solution, il y a le partage évidemment, mais il y a aussi la possibilité de ne pas forcément posséder son propre vélo, d'en utiliser de temps en temps. Ça peut être le début d'une pratique avant d'y passer à 100%, si je puis dire. Arnaud Leroy-Dallec, je rappelle que vous êtes cofondateur de 15. C'est un réseau d'installation de vélos électriques en location de courte durée en libre-service. Est-ce que cette offre, justement, cette offre en libre-service, elle est suffisante et bien calibrée pour les étudiants et leur manière d'être au quotidien et de se mouvoir?
Oui, alors première précision, c'est qu'on fait de la courte durée, mais aussi de la location longue durée. Et je pense que c'est important parce que un des sujets sur lesquels on travaille, c'est justement tout ce parcours vélo de la découverte du service, de l'essai du service vélo, de pouvoir accéder au service facilement, faire son trajet, son premier trajet avec un trajet en location courte durée. On prend un vélo d'un point A à un point B, on le rend et on a souscrit ou pas une offre pour pouvoir, ou on paye juste à la course. Et puis pour des utilisateurs plus récurrents, nous on propose aussi des systèmes de vélos en location longue durée. Et c'est assez intéressant parce qu'on a des villes sur lesquelles on déploie les deux services en parallèle. Et on voit que les trois quarts des utilisateurs du service en location longue durée ont été utilisateurs au préalable de la location en courte durée. Donc on a vraiment un peu un parcours de découverte, d'adoption, qui peut se terminer, et là ça sort de ce que nous on fait, vers l'achat, je découvre, je réutilise de plus en plus régulièrement, et éventuellement à la fin j'acquiers mon vélo. Et ça je pense c'est important, et c'est vraiment quelque chose qu'on voit effectivement sur le service et que nous on pousse parce que voilà, l'essayer, et en particulier le vélo assistance électrique, c'est l'essayer, c'est l'adopter, mais en même temps il y a un coût d'achat initial qui est important. Et donc voilà, il faut avoir l'opportunité, soit parce qu'on connaît quelqu'un qui a le vélo, soit parce que les occasions font qu'on peut découvrir, de rentrer un peu dans cette spirale positive pour pouvoir expérimenter ce côté bien-être qu'on décrivait juste avant.
Il y aurait énormément de choses à évoquer. Je pense au train dont on n'a pas parlé, mais j'ai aussi envie de retenir, voilà, notamment ce que vous avez dit, Thibaut Carré, sur le plaisir de faire du vélo. Mais pour conclure, est-ce qu'il faudrait enseigner les bases du cyclisme dès la primaire, voilà, de se dire justement de s'enlever du tout voiture. On a parlé beaucoup des pistes cyclables, des stationnements. Est-ce qu'il pourrait y avoir des solutions comme ça, d'essayer de mettre dans la tête que le vélo, ça peut être bien aussi?
Bah ça existe déjà un peu. Heureusement, on travaille notamment avec Elodie sur comment faire en sorte que dès le plus jeune âge, les personnes se mettent au vélo et notamment apprennent à faire du vélo, parce qu'il y a aussi beaucoup d'inégalités sociales en la matière. Après, pour toute sa vie, développer, construire, enrichir sa culture vélo, rien de mieux que de pratiquer à toutes les occasions, dans tous les environnements possibles, comme je disais, en vacances, en France, à l'étranger, le week-end, avec ses amis, du sport, pas du sport. Bref, c'est recréer, reconnecter, recréer ce lien avec le vélo. Et puis encore une fois, la meilleure manière encore, ça reste de militer, de s'engager, et aussi en tant qu'élève, pour certains ingénieurs et autres qui vont être amenés à concevoir parfois beaucoup de choses, et notamment la vie des gens, de toujours avoir en tête qu'il y a toujours une autre manière de faire, et que le vélo est un bon exemple d'une autre manière de se déplacer.
Elodie, c'est ce que vous diriez aussi ?
Absolument. Et moi, j'ai même envie d'aller pousser un petit peu plus loin en m'adressant aux universités et aux écoles d'ingénieurs, de commerce, etc. On a démontré du côté des employeurs que un salarié qui se déplace à vélo, il est plus souvent à l'heure, il est moins souvent absent, il est plus productif. Et je pense qu'on aurait sûrement des études similaires à mener sur les étudiants pour montrer qu'ils sont sûrement plus assidus, plus à l'heure, plus productifs également dans leurs études. Il y a vraiment une qualité de vie associée au fait de se déplacer à vélo qui est sûrement extrêmement vertueuse pour les directeurs d'école, pour les présidents d'université. Donc, je pense que c'est quelque chose à réfléchir. Et du coup, une fois qu'on a pris conscience de ça, les universités, elles ont un vrai rôle à jouer aussi pour mettre le pied à la pédale de tous ces étudiants. Et je voudrais juste finir là-dessus. Il y a un outil qui est extrêmement utile et qu'on aime beaucoup à l'ADEME, c'est le principe des challenges mobilité ou des challenges vélo. C'est l'occasion de gamifier en fait des essais de vélo et des challenges sur une journée, sur une semaine, pour inciter le maximum d'élèves et de professionnels de l'université ou de l'école à venir à vélo. Et pour beaucoup, c'est souvent la première occasion d'essayer de faire le trajet à vélo ou d'essayer un VAE. Et ce sont des occasions en fait de tout changer parce qu'on a essayé et qu'on s'est aperçu en conditions réelles que ça pouvait fonctionner. Donc voilà, moi j'invite vraiment tous les présidents d'université et directeurs d'école à réfléchir à ce type d'outils pour demain avoir plus d'élèves qui se déplacent à vélo pour d'encore meilleurs résultats.
Un grand merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Merci à Mathieu de Saisie Arras pour son témoignage. On se retrouve dans un prochain épisode où il sera question de covoiturage.